Avant de commencer, je voudrais mentionner un point que François n'a pas mentionné, parce qu'il est un homme brillant, mais aussi modeste. Il n'a pas mentionné le travail absolument remarquable qu'il fait en tant que rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits des migrants. Et il s'agit là d'un sujet de grande actualité. Je reviens d'Europe et là, on voit à quel point c'est prudent. Et François est très présent dans l'action, mais aussi dans les médias, non seulement ici, mais aussi en Europe. Et chapeau pour ce qu'il fait. Lui, il a parlé d'un sujet très spécifique. Moi, je vais essayer de jeter un regard un peu d'ensemble sur l'œuvre des Nations Unies en matière de droits de l'homme, ou droits humains, ou droits de la personne. D'ailleurs, pour la terminologie, François aussi a plusieurs fois parlé de droits de l'homme, et comme moi, quand il dit homme, c'est, dans ma langue maternelle, c'est mensch. Malheureusement, la langue française n'a pas de terme qui englobe les deux, homme et femme, comme l'allemand, comme le grec, anthropos, comme le latin. Donc, si je me laisse aller au terme droit de l'homme, c'est pas une expression de sexisme. Parfois, j'emploie maintenant le terme droits humains, mais récemment, dans une conférence dans la ville de Québec, quelqu'un m'a accusé d'anglicisme. Il m'a dit, c'est votre langage et contaminé par l'anglais, puisque vous parlez maintenant de droits humains, human rights. Ce que je voudrais dire, pour commencer, c'est que je suis personnellement convaincu, je ne suis pas prophète, mais je pense que les historiens futurs vont considérer comme un des traits saillants de la deuxième moitié du XXe siècle l'internationalisation des droits de l'homme. Cette irruption des droits de l'homme sur la scène internationale, c'était quelque chose d'entièrement nouveau. Auparavant, ça n'intéressait pas la communauté internationale, les institutions internationales. L'homme, l'être humain, n'était pas au cœur des intérêts et des actions des institutions internationales. La Charte des Nations Unies donne à l'Organisation des Nations Unies une compétence en matière de droits de l'homme. C'est dit explicitement. Pourquoi ? Parce que l'idée, quand on a fondé les Nations Unies, c'était plus jamais ça. Ce qui était arrivé ne devait plus arriver. D'ailleurs, ça a été exprimé de façon éclatante dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui doit beaucoup, d'ailleurs à deux, puisque je suis vieux, qui doit beaucoup à deux personnes que j'ai encore connues, René Cassin d'une part, le français, et John Humphrey, le canadien d'autre part. Moi j'aime beaucoup ce texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans lequel il y a, je dirais, un souffle prophétique, surtout dans le préambule. Et je crois que ce souffle prophétique est dû avant tout à René Cassin. Je ne vais pas vexer le Canadien, je suis moi-même un Canadien. John Humphrey disait parfois que Cassin n'avait fait que la traduction française de ce que lui avait écrit. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a d'ailleurs des textes manuscrits de Cassin, notamment du préambule de la Déclaration. Et ce que dit ce préambule, entre autres, il rappelle, je cite, que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, etc., etc. Donc, référence très claire à ce qui était arrivé sous les régimes totalitaires, nazis, fascistes et autres en Europe. Ce qui ressort de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'est qu'une déclaration, mais qui a tout de même acquis une certaine valeur juridique, c'est l'indivisibilité des droits de l'homme. Un principe qui est souvent oublié, aussi dans ce pays. On a tendance à négliger tout un volet des droits de l'homme, c'est-à-dire les droits économiques, sociaux et culturels. Et l'autre principe qui est affirmé avec force, c'est le principe d'universalité. J'ajoute souvent un troisième, c'est celui de la solidarité. La défense solidaire des droits de l'homme. Il y a un passage dans la Déclaration universelle sur la fraternité, mais qui me paraît important. Après la Déclaration universelle, les Nations Unies ont accompli un travail normatif très important. Et les Nations Unies ont élaboré un grand nombre de textes, de traités sur les droits humains, notamment les deux pactes sur les droits civiques et politiques d'une part, économiques, sociaux d'autre part. Malheureusement, deux pactes séparés. Alors que dans la Déclaration universelle, il y a encore les deux. Ça, le fait qu'il y ait eu cette scission, c'est l'œuvre, je le regrette et je déplore, des Occidentaux qui ne voulaient pas mettre les deux ensemble et surtout pas mettre les deux au même niveau. Donc, il y a eu une série de traités internationaux, un grand travail normatif. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a élaboré des standards universels. Mais ce qui nous frappe tous, et moi certainement, c'est le fossé énorme entre ce qui est affirmé, officiellement garanti dans ces textes, et la réalité sur le terrain. Pourquoi ce fossé ? Une des raisons, c'est qu'il y a dans la Charte des Nations Unies un autre principe, celui de la non-immixtion dans les affaires intérieures. Et je crois que les Nations Unies ont constamment vécu entre ces tensions, entre l'affirmation des droits humains en tant que préoccupation de la communauté internationale et d'autre part, cette idée de la souveraineté nationale. Et à mon avis, c'est une conception erronée de la souveraineté. Moi, je vois la souveraineté avant tout comme une responsabilité. Bon, je n'entre pas dans le débat sur la souveraineté au Québec. La souveraineté, ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité, et de plus en plus, une responsabilité partagée entre les membres de la communauté internationale. Ce que la souveraineté n'est pas et ne doit pas être, c'est une sorte de mur du silence, derrière lequel les régimes, les États, essayent de se barricader pour cacher leurs crimes contre les humains. Mais je crois, malgré cette tension qui existe, qui persiste, de plus en plus, la conception a prévalu d'après laquelle les droits humains font de moins en moins partie des affaires dites intérieures des États. Et d'ailleurs, ce principe, je ne veux pas faire trop de juridisme, mais ce principe selon lequel le respect des droits humains est une responsabilité non seulement des États, mais aussi de la communauté internationale, ça sort de plus en plus de la jurisprudence de la Cour internationale de justice. C'est affirmé aussi dans le principe 7 de l'acte final de la conférence d'Helsinki, qu'on a un peu tendance à oublier. Donc l'idée est maintenant de plus en plus que le respect des droits de l'homme est une responsabilité des États, non seulement envers leurs propres citoyens, mais aussi envers la communauté internationale. Il y a eu donc ce que j'ai appelé tout à l'heure cette internationalisation des droits de l'homme. Qui a fait entrer sur la scène internationale de nouveaux acteurs qui n'étaient pas présents auparavant? D'une part, l'être humain en tant que tel, comme porteur de droit, qui peut intenter des procédures contre l'État. Et d'autre part, ça a fait entrer sur la scène internationale les ONG, les organisations non gouvernementales, qui jouent un rôle capital en matière de droits humains, dont Amnesty International, et Béatrice vous en parlera tout à l'heure. Je crois que l'action des ONG, au plan philosophique, est très importante parce qu'elles agissent pas pour la défense de leurs droits, mais elles agissent pour les droits des humains, droits des autres. Je pense d'ailleurs que de plus en plus, il faut voir les droits humains comme des droits de l'autre, des autres. Ces ONG agissent au nom de la solidarité humaine. Maintenant, je disais tout à l'heure, ce qui frappe, c'est le décalage fossé énorme entre ce qui est affirmé et la réalité. Et une des choses que je voudrais mentionner, et avec beaucoup de regret, c'est la faiblesse des mécanismes de contrôle internationaux dans le cadre des Nations Unies. Il y a toutes sortes d'organes qui s'occupent de droits humains. Il y a d'une part des organes composés de représentants gouvernementaux. Dans le temps, la Commission des droits de l'homme, maintenant le Conseil des droits de l'homme, ceux qui siègent là-dedans, c'est des représentants des gouvernements, des États, qui sont à la fois juges et partis, une chose qui n'est pas très saine. Il y a, d'autre part, des organes composés d'experts indépendants. Par exemple, dans les mécanismes de contrôle des pactes, les comités institués. Ces experts indépendants agissent en quelque sorte au nom de l'humanité, des humains. Ils ne travaillent pas pour un gouvernement. François, en tant que rapporteur spécial pour les droits des migrants, n'agit nullement en tant que représentant du gouvernement canadien, n'est-ce pas ? C'est le moins qu'on puisse dire. La conclusion que j'en tire, c'est que de plus en plus, on devrait donner un rôle prépondérant aux organes ou aux personnalités indépendantes. Pour ce qui est des rapporteurs spéciaux, ces mandats spéciaux, c'est une pratique qui s'est développée aux Nations Unies. Il y a eu les rapporteurs spéciaux ou représentants spéciaux pour des pays. Et ce qu'on oublie souvent, et surtout les pays du tiers-monde l'oublient souvent, ça a commencé avec l'Afrique du Sud, et ensuite ça a continué avec le Chili, et de plus en plus, une grande majorité de pays du tiers-monde n'aiment plus cette approche par pays, parce que ça veut dire qu'il y a du naming and shaming. On parle de pays où la situation des droits de l'homme est par exemple particulièrement grave. Moi, j'ai été représentant spécial pour les droits de l'homme au Cambodge, une expérience très intéressante, et j'espère, en toute modestie, que, au moins grâce à l'action que moi-même et d'autres ont essayé de mener, la situation est, comme on dirait en québécois, moins pire qu'elle pourrait ou qu'elle risque de l'être. Il y a aussi les rapporteurs par thème, comme le thème des migrants. Et François est le rapporteur pour ce sujet extrêmement important. J'arrive à la fin. Et je voudrais mentionner ce qui, à mon avis, sont des objectifs importants pour l'avenir de l'action des Nations Unies en matière de droits de l'homme. 5 points. Premièrement, je crois qu'il faut mettre l'accent sur la mise en œuvre des normes qui ont été élaborées pour renforcer les mécanismes de contrôle. Souvent, l'élaboration de toujours nouvelles règles est une sorte de fuite en avant. Et essayons de faire appliquer les règles, les normes qui ont été élaborées. Deuxième sujet, et à mon avis c'est une grande lacune, non seulement au niveau des Nations Unies, mais aussi au niveau européen où j'ai été engagé pendant longtemps, c'est les droits culturels. Dans la litanie, on mentionne toujours droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Mais comme droits culturels, presque rien n'est garanti, même dans la Déclaration universelle, toute petite mention. Troisième objectif, mettre un terme à l'impunité. Il faut que les violeurs de droits de l'homme ne restent plus impunis. Quatrième point, ce qu'on appelle maintenant la responsabilité sociale des entreprises. Et j'y pensais aussi tout à l'heure en écoutant les discussions de l'autre panel. Ce qu'il faut voir, c'est que les droits humains sont violés non seulement par les États, mais aussi par des acteurs non étatiques, dont des entreprises multinationales. Et je, en vous écoutant tout à l'heure, je pensais à un grand Africain pour qui j'avais une grande admiration, Kevin Paye, qui disait « Développement, que de crimes ont été commis en ton nom ». Et en regardant autour de nous, même en regardant ce que font certaines compagnies canadiennes, je ne pense pas qu'elles jouent un rôle exemplaire en matière de défense des droits de l'homme en Amérique latine, Afrique ou ailleurs. Dernier point, je crois qu'il faudrait voir la politique des droits de l'homme, l'engagement pour les droits de l'homme, de plus en plus en termes de politique de paix. La Déclaration universelle dit quelque chose de très fondamental et dans le premier paragraphe, on dit que la reconnaissance des droits de l'homme est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Et Mary Robinson, qui était haut commissaire aux droits de l'homme, disait souvent que les violations des droits de l'homme d'aujourd'hui étaient les conflits de demain. Je crois qu'il y a beaucoup de vérité dans ce constat. Je m'arrête là et j'ai respecté mon temps de parole. Merci, monsieur le président.